le sujet de ce soir, quoi faire avec nos attentes? On va couvrir pourquoi est-ce que les attentes, ça nous apporte tant de problèmes? Quoi faire justement quand on a des attentes? Et quand peut-on avoir des attentes? Sans plus tarder, j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. C'est une charmante personne qui va encore nous apprendre des choses fantastiques ce soir. S'il vous plaît, Lise Bourbeau.
Bonsoir. Alors ce soir, vous êtes venu entendre parler d'attentes. Est-ce que vous avez des attentes? J'espère que vous n'avez pas des trop grosses attentes. On va entendre parler pourquoi ça cause autant de problèmes d'avoir des attentes. Autant d'émotions, autant de paquets de troubles, hein, finalement. Alors, qu'est-ce que c'est pour commencer une attente? Quand on regarde la définition de s'attendre à quelque chose, quand on dit « je m'attends à quelque chose », c'est parce que on croit que c'est pas mal sûr, que c'est probable, on prévoit quelque chose, on compte sur cette chose-là, hein, quand on s'attend à quelque chose. Et puis, alors c'est sûr que quand on dit qu'une personne a une attente, c'est ce qu'elle fait. Elle est pas mal sûre que ça va se matérialiser ou se réaliser. Si je dis j'attends le train, on n'est pas mal sûr qu'il va arriver d'une minute à l'autre. Hein? Si on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais? » Puis tu dis « j'attends le repas que j'ai commandé », ben c'est parce qu'elle ne dit pas « j'aimerais avoir un repas » ou « j'espère avoir un repas ». Quand on dit « j'attends », c'est parce que c'est pas mal sûr. On peut attendre un chèque par la poste, on peut attendre quelqu'un, hein? On a pris un rendez-vous avec quelqu'un à 18h à quelque part, ben on l'attend. Alors, on en fait des attentes dans notre vie, hein? On est souvent en état d'attente. Et alors, c'est tout à fait normal parfois d'attendre parce que on prévoit que les choses devraient être comme ça. Mais pourquoi ça cause autant de problèmes si c'est normal d'attendre? Alors, comment moi j'en suis venue, à la conclusion j'en suis venue, c'est que la grande majorité de nos attentes ne sont pas justifiées. Ce que je veux dire par là, être justifié, ça veut dire qu'il y a eu une entente, il y a eu une promesse, il y a eu un engagement au préalable. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attend à quelque chose, mais ça n'a pas été clair. Alors, quand on va regarder ensemble tout ce qu'il y a derrière ça, tout ce qu'il peut y avoir derrière les attentes non justifiées, parce que c'est celle-là qui nous cause autant de problèmes. Alors, une des choses principales là, que moi j'ai remarqué qu'il y a derrière une attente, c'est le manque de communication. Ah, ça, on va-tu finir par apprendre à communiquer? Ça, c'est, je pense que j'en parle dans chaque conférence, c'est Max, c'est un sujet important. Ce qu'on fait, bien souvent, on présume pour l'autre, on décide pour l'autre personne, on ne vérifie pas avec les gens, on s'attend à quelque chose sans communiquer avec la personne. On va prendre au travail. J'aime me donner plusieurs exemples parce que c'est plus facile de s'identifier à ces choses-là. Hein? Enfin, on peut avoir des attentes partout, mais il y en a souvent au travail. Alors, c'est normal qu'au travail, l'employé a été engagé pour faire de tel travail, de telle heure à telle heure. Alors, le patron s'attend à ce que l'employé rentre à telle heure. Hein? Puis, l'employé s'attend à ce que son patron lui donne son salaire à la fin de la semaine. Alors, ça peut aller parce qu'il y a des attentes comme ça qui sont justifiées. Mais le gros problème, c'est comme on manque de communication, il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà de ces ententes-là là, qu'on a fait au début, disons, quand on s'engage à quelque part. Ça peut être comme peut-être une journée, un employé a pensé bien faire, puis a décidé de prendre une initiative et de travailler sur un tel projet ou faire quelque chose, en croyant, en s'attendant que le patron serait de bonne humeur. Est-ce qu'il y a un employé qui prend des initiatives? Là, le patron apprend ça. Là, il dit, « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? » Le patron, lui, il s'attend que l'employé va demander la permission pour faire ça. « Mais moi, je te paye pour telle ou telle chose. Comment ça se fait que tu fais autre chose à la place? » Hein? Voyez-vous, c'est ça. Pour qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Manque de communication. Ça n'a pas été clair. L'employé qui veut prendre une initiative, il n'est pas allé vérifier avec son patron. Est-ce que ça fait partie là, de mon engagement? Là? Est-ce que c'est possible que je prenne des initiatives parfois? T'sais, il a pris pour acquis que le patron serait de bonne humeur. Puis, alors, il s'attendait à quelque chose. Puis, c'est pour ça qu'on vit autant d'émotions. Il y en a un qui est choqué parce que le patron ne le félicite pas, puis le dispute à la place, puis l'autre n'est pas de bonne humeur parce que son employé ne fait pas ce qu'il est supposé faire. Fait que finalement, les deux s'en vont chez eux le soir en vivant des émotions. Ça peut être aussi dans la famille, la mère qui achète un vêtement à son enfant. Il y en a bien des mères ici, hein? Puis, je ne sais pas, c'est peut-être comme moi, mais quand les enfants étaient jeunes, j'achetais toujours les vêtements qui faisaient mon affaire à moi, hein? Quand même, mon petit garçon pourrait être bien beau là-dedans, tu sais. Alors, tu arrives à la maison, puis là, tu t'attends que l'enfant va être heureux. Puis là, là, il regarde ça, puis il dit pas un mot, puis moi, tu sais, c'est pas plus ça. Puis là, on commence à y faire la morale, tu sais. Franchement, tu pourrais bien me dire merci. Je te dis qu'il y a un paquet d'enfants qui me reçoivent, des parents qui achètent du beau linge comme ça, tu sais. Hein? On s'attend à quelque chose. Puis l'enfant, lui, il dit, ben, il me semble que tu aurais pu m'en parler avant si tu voulais me faire un cadeau puis tu voulais me faire plaisir. Ben, moi, je t'aurais trouvé bien d'autres affaires à acheter avec cet argent-là, tu sais. Des disques, des jouets. Et alors, voyez, c'est ça, c'est un manque de communication. Aussi, derrière les attentes non justifiées, il y a toujours des peurs. Fait que vous allez voir, quand vous allez commencer à faire des démarches intérieures cette semaine, vous allez penser à vos attentes, vous allez être capable de tout voir ça. Beaucoup de peurs dans les attentes. On a peur, bon, on va prendre encore la mère avec ses enfants, la mère qui voudrait que ses enfants soient en santé puis mangent bien, hein, mangent toujours des bons repas équilibrés, le père qui voudrait que ses enfants fassent des études, ben pourquoi qu'ils ont ces attentes-là? Parce qu'ils veulent passer pour des bons parents. Ils ont peur, la mère qui a un enfant qui est toujours malade et qui mange mal, elle a peur de ce que les autres vont dire, quelle sorte de mère que je suis. Vous voyez, c'est très facile de voir des peurs derrière ça. Et on s'attend à des mots d'amour, des mots d'affection, hein, dans votre relation de couple. Il y en a qui peut dire, ben, il me semble qu'il sait bien que j'aime ça, avoir de la tendresse ou me faire dire je t'aime de temps à autre. Faut-tu toujours que je le demande, tu sais? Il me semble qu'il pourrait bien me faire des marques d'affection de temps en temps. Je ne demande pas à la fin du monde. Hein? On s'attend à ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a eu une promesse? Est-ce qu'il y a eu une entente au préalable? Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes mariés, vous vous êtes promis un et l'autre de toujours vous dire « je t'aime à tous les jours » ou bien, tu sais, d'être toujours affectueux tout le temps? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vous étiez vraiment entendu? Mais non. Alors ça, puis si tu regardes derrière ça, quelle sorte de peur? Bien, c'est la peur « il m'aime plus ». Tu sais, c'est plus comme c'était. Hein, il me semble qu'avant ça, il était bien plus affectueux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au lieu de communiquer, ben là, la peur prend le dessus, puis on a de plus en plus d'attentes. Les gens qui aiment avoir de la gratitude, hein, quand ils font quelque chose, ben, quelle peur qu'il peut y avoir derrière ça? Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être congédié, tu sais, quelqu'un qui ne reçoit jamais de compliments, disons, ou de mots de gratification. Il se sent tout croche, puis il se demande qu'est-ce qui lui arrive à cause de ses peurs. Alors, il y a des attentes. On a des attentes. Puis ça, c'est combien on a d'attentes, surtout quand on a rendu service ou on a fait quelque chose peut-être un peu plus spécial. On s'attend à quelque chose. Puis là, les personnes nous ignorent complètement. Puis on dit, hey, après tout ce que j'ai fait, regarde-moi donc ça, qu'est-ce que je reçois en retour? Voyez-vous? Alors, ça, là, quand vous vous voyez en train de vivre ça, vous pouvez facilement découvrir des peurs. Puis ensuite, aller vérifier. Tu sais, est-ce que l'autre personne m'avait promis de faire ça, de toujours me dire merci ou des compliments quand je fais quelque chose? Et avec ça, vous allez aussi pouvoir remarquer qu'il y a des croyances aussi. Hein? On revient toujours à ça finalement. Quand à chaque fois que vous avez une attente qui n'est pas justifiée, vous pouvez découvrir une croyance qui n'est pas bonne pour vous autres, parce que c'est ça qui crée votre peur. Alors encore, des croyances, on en a tellement, tu sais. Comme une personne peut s'attendre que quand elle ne sent pas bien, puis quand elle est malade, que là, l'autre devrait être au petit soin. Hein? Monsieur, il ne rentre pas travailler aujourd'hui parce qu'il fait de la fièvre ou il a une grosse grippe, puis là, il voudrait que madame soit au petit soin. Mais ça, ils ne s'en ont pas parlé avant, puis est-ce que ça avait été promis, cette affaire-là? Est-ce que madame a promis à monsieur de devenir une infirmière quand monsieur est malade? Mais non, on s'attend à ça. Hein? Comme les femmes qui s'attendent que quand à chaque mois, là, quand elle est menstruée, ben, elle n'est pas trop bien. Elle a souvent des maux de tête ou des maux de ventre. Puis là, ben, il me semble qu'il devrait le savoir. J'y ai dit, là, c'était mon temps de menstruation. Pourquoi il ne s'occupe pas de moi plus que ça? Là? Pourquoi il me fait choquer? Là? Il sait que je suis sensible dans ce temps-là. On voudrait toujours que les gens fassent de la télépathie. On a des attentes. Hein? Et alors ça, vous regardez ça, puis vous allez voir, bon, manque de communication, des peurs là-dedans. Et ensuite, vous pouvez découvrir que vous avez une croyance là-dedans qui n'est pas bonne pour vous autres. Ce n'est pas intelligent pour vous autres de croire à ça. Ça fait juste vous apporter des émotions. C'est pas intelligent de faire ça, c'est masochiste. De toujours répéter un comportement qui nous fait souffrir. Alors, ça veut dire que tu crois qu'automatiquement, quand tu ne te sens pas bien, que les autres sont supposés être à ton service. Ça vient d'où, ça? Sur quoi se baser pour croire à ça? On n'a pas le droit de décider des choses comme ça, hein, sans vérifier. Puis, la même chose pour quand c'est notre fête ou notre anniversaire. Tu sais, quelqu'un, tu regardes un couple, c'est leur 10e anniversaire de mariage, puis monsieur oublie l'anniversaire. Hey, comment madame vit ça? Hein? Il arrive le soir, puis il s'écrase dans sa chaise, puis là, elle pense qu'il va la sortir, qu'il va l'amener dans un bel endroit. Puis là, elle attend, s'est fait coiffer dans le jour, puis il a même pas remarqué qu'elle allait se faire coiffer en plus de ça. Puis là, monsieur a oublié l'anniversaire de mariage. Tu sais, ça me fait rire parce que un jour, j'étais allée chez le dentiste, puis moi, c'est une femme dentiste, puis elle parle beaucoup, beaucoup, tu sais. Puis elle est vraiment le fun, par exemple, elle me fait beaucoup rire. Puis tu sais, quand t'es en train de te travailler dans la bouche, t'as rien qu'à vidrer, c'est pas facile. Puis tout le temps qu'elle m'a travaillé dans la bouche, je faisais mon nettoyage dedans, elle racontait à son assistante cet incident-là, que la veille, c'était son anniversaire de mariage, puis il l'avait oublié. Et en tout cas, c'était pas que le petit drame. Puis là, moi, j'avais l'envie de rire, puis je me disais, je dirais pas un mot, je vais attendre qu'elle me demande une question, tu sais. Et puis, mais c'était, j'en revenais pas, hein. Pendant qu'elle parlait, là, je révisais toutes les émotions qu'elle avait vécues dans cette journée-là, puis elle s'était donnée jusqu'à telle heure, tu sais, pour... puis là, après cette heure-là, elle a dit, là, ça y est, je me choque, là. C'est ça. Puis là, elle a appelé sa belle-mère pour lui dire, votre fils, il est rendu 3 heures l'après-midi, j'ai pas encore reçu fleur, il a rien dit. J'ai fait exprès ce matin quand on s'est levé, j'ai pas dit un mot pour voir, tu sais, s'il pensait à notre anniversaire. Puis là, il est rendu 3 heures l'après-midi, j'ai pas eu de fleur, j'ai pas eu un appel, c'était épouvantable. Puis, fait que la belle-mère a tout de suite appelé son fils. Puis là, les fleurs, une heure après, les fleurs sont arrivées. Mais, tu sais, fait que moi, après, quand elle m'a demandé, elle a dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame Bourbeau, ça? Parce qu'avant de partir, je fais toujours une espèce de petit suivi, là, tu sais. Elle me pose toujours des questions. Puis j'ai dit, je voulais juste te poser une question. Est-ce que c'était son anniversaire de mariage à lui aussi? Étais-tu là quand vous vous êtes mariés? Elle a dit oui. Ben, j'ai dit, toi, là, tu croyais pas que ça aurait été important pour toi de lui dire bon anniversaire, là, en te levant le matin? C'est autant son anniversaire de mariage à lui que toi. Pourquoi que toi, t'avais le droit de pas y dire jusqu'à 5 heures d'après-midi, mais lui, c'était pas correct, tu sais. Fait que là, je l'ai laissé avec ça. Mais voyez-vous, mais imaginez là, les émotions qu'elle a vécues toute la journée, là, c'était épouvantable. On voyait là que, tu sais, là, ça augmentait son affaire toute la journée. Et c'est ça, tu peux regarder, tu sais, toutes les peurs, la peur de ne plus être aimée, puis il a oublié ça, c'est épouvantable. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'attentes, puis encore, vous voyez, c'est parce qu'elle, là, elle n'avait jamais vu que c'était autant à la femme de souhaiter bon anniversaire. Ça, c'est le mari qui était supposé de faire ça. Ça, c'est une croyance qu'elle a, que c'est l'homme qui est supposé envoyer des fleurs à la femme, tu sais. Puis j'ai dit, moi, là, si j'étais toi, je me dépêcherais d'y envoyer un bouquet de fleurs pour te dire, bon, ben c'est à mon tour à te souhaiter bon anniversaire, tu sais. C'est la même chose pour l'éducation des enfants, pour le ménage à la maison. Un couple se marie, puis s'ils prennent pour acquis que un est supposé de faire ci, puis l'autre est supposé de faire ça. Tu sais, le monsieur il est supposé peut-être de réparer les poignées de porte, puis faire des réparations dans la maison, puis madame est supposée de laver le bol de toilette, puis tu sais, faire le ménage. Puis ça pourrait peut-être être l'inverse qui serait le mieux. Peut-être madame est mieux qu'un tournevis, puis que monsieur est mieux avec un chiffon à nettoyer. Ça pourrait arriver, mais il faut en parler de ces choses-là. Au lieu de se fier à ce qu'on a appris. C'est ça, quand on parle de croyances, c'est toujours des choses qu'on a appris dans le passé. On a cru à ça, puis là, on base notre vie là-dessus. Ça serait supposé être de même. Non, il n'y a personne qui dit que c'est supposé être de même. C'est vrai que ça peut être arrivé comme ça, à certaines reprises, mais une personne intelligente ne continue pas à répéter le passé tout le temps. Elle se fie à ce qui se passe à tous les jours, puis va avec les changements qui se passent. Et puis, pour, c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est parce que un couple ont des enfants ensemble que les deux sont aptes à aider l'enfant, peut-être avec ses travaux scolaires ou comment s'y prendre avec l'enfant. Peut-être qu'un est bon avec un affaire et l'autre est bon avec l'autre, mais comment vous allez savoir ça? C'est en parlant ensemble, c'est en vous engageant ensemble et non juste prendre pour acquis parce que c'est supposé être de même. Et ce que j'ai remarqué aussi dans les attentes non bénéfiques, il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. C'est vraiment une expression d'égoïsme. Alors, regardez ça à chaque fois que vous attendez à quelque chose de quelqu'un d'autre. Regardez, il y a une partie de vous autres là qui voudrait absolument que l'autre s'occupe de vous autres. Ça fait partie au détriment des autres. C'est vraiment une façon qu'on peut voir que la personne qui a des attentes, elle est égoïste, puis aussi elle veut contrôler, elle veut changer, elle veut diriger l'autre personne. Et ça, tu sais, comme dans les exemples que je vous ai donnés, vous pouvez le voir facilement. Puis on le voit, j'ai parlé de parents avec les enfants, mais les enfants aussi ont des attentes. Hein? Les enfants s'attendent que les parents sont toujours supposés être de bonne humeur, en forme, plein d'amour, patients, tolérants. En connaissez-vous des parents qui sont toujours de même? Non, mais ça n'a jamais été dit, ça. Tu sais, ça n'a jamais été dit. Si c'était clair, si le parent disait à son enfant tout jeune, là, écoute-moi, il y a des journées, là, que je n'ai pas le goût d'être une mère. Puis ça ne me tente pas, cette journée-là. Fait que moi, si j'étais toi, là, je me ferais bien petit ces journées-là. Mais on a le droit, tu sais. Mais non, on pense que c'est pas correct à cause encore de nos fameuses croyances. Voyez-vous, tout ça revient tout le temps. Hein? On croit qu'une bonne mère ou un bon père ne serait pas supposé dire des choses comme ça aux enfants. On a peur de passer pour 100 heures, hein? On a peur de pas être un bon parent, fait qu'il y a des peurs là-dedans aussi. Et les enfants, ben, on peut pas les blâmer de s'attendre à ça, parce que y a pas personne qui leur a dit que c'était pas comme ça que ça marchait. Alors, nous autres, on a appris ça quand on était jeunes aussi, que nos parents sont supposés de tout savoir, puis d'être toujours là pour nous autres. Fait que quand on devient parent, ben là, on pense qu'on est obligé de le faire avec nos enfants, tu sais. Alors ça, c'est bien, bien important encore que ce soit clair, ces choses-là. Comme quand les enfants deviennent adolescents. Là, ils s'attendent que les parents vont leur fournir de l'argent pour sortir. Hein? Ça avait supposé, ça. Coudon, tu m'as eu, c'est toi qui m'as eu. Bon, ben, ah oui, donne-moi des affaires. Puis habille-moi, puis fais ci, puis fais ça. Mais quand il y a des choses comme ça qui se passent dans une famille, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication. On se base sur des choses qu'on a apprises, puis ça crée des attentes, puis après ça, tout le monde est déçu. C'est la guerre, c'est les émotions. Je connais souvent aussi des personnes qui vont essayer d'organiser quelque chose d'avance, là, comme ça peut être justement la mère qui va dire à ses enfants puis son mari, « Ben moi, là, pour ma fête la semaine prochaine, là, j'aimerais telle ou telle chose. » Tu sais, elle avait tout dirigé son affaire, là, parce qu'elle veut se faire plaisir. Puis là, elle prend pour acquis qu'ils ont tout compris puis qu'ils vont le faire. Elle s'attend à ça. Mais ils n'ont jamais dit oui. Ils se sont pas engagés. Ils n'ont pas fait de promesses. Mais elle s'attend à ça. Fait que là, le soir de sa fête, si ça va pas comme elle veut, puis qu'eux autres, ensemble, ont décidé de faire autre chose, pensez-vous qu'elle va avoir du plaisir? Elle sera pas capable de juste être bien avec ce qu'eux autres ont décidé, parce qu'elle va dire, ça y est, ils m'aiment pas, c'est ma fête, puis ils font ce qu'ils veulent, puis, tu sais. Alors, elle va vivre des émotions, puis elle sera pas bien toute la soirée qui a été prévue, plutôt que juste, tu sais, apprendre à peut faire ses demandes, mais on n'a pas le droit d'avoir des attentes si ça n'a pas été vraiment entendu d'avance. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui organisent des affaires pour d'autres, qui dirigent la vie d'autres, comme ça peut être la femme qui a répondu à une invitation pour aller à des noces, puis elle s'attend, son conjoint va l'accompagner, voyons, c'est mon mari, il est supposé venir avec moi. Mais elle n'a pas vérifié avec lui si lui, ça lui plaisait cette journée-là d'aller à telle noce, tu sais. C'est supposé être de même, hein? C'est supposé de m'accompagner. Fait qu'imaginez si monsieur arrive et dit, ben, c'est toi qui as répondu que t'allais aux noces. Vas-y, si tu veux, moi, j'y vais pas. Imaginez ce qu'elle va vivre, hein? Les émotions que ça va lui faire vivre. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a de l'égoïsme parce que elle veut aller aux noces. Elle a répondu sans vérifier avec son mari en prenant pour acquis que lui l'accompagnerait. Et encore, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de toujours vouloir diriger sans vérifier avec les hommes. Ensuite, c'est la même chose dans la vie sexuelle. Beaucoup d'attentes dans la vie sexuelle d'un couple. Tu sais, c'est... Au début, ben c'est agréable. Souvent, ça arrive plusieurs fois par semaine. Là, tous les deux ont le goût. Puis là, avec le temps, ça commence à s'estomper. Mais souvent, il y en a un des deux qui s'attend à ce que ça continue. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe de pas correct si l'autre avait pu. Si l'autre dit non, comment ça se fait que tu dis non, puis qu'est-ce qui se passe, puis tu m'aimes plus? Puis là, vous voyez, ça a pas été. Est-ce qu'il y a eu une entente au début de votre mariage que vous feriez l'amour trois fois par semaine pour le reste de vos jours? C'est ça. Les gens ne s'arrêtent pas à ça pour dire, ben, pour qui je me prends, moi, pour m'attendre à ces choses-là de l'autre personne? Voyez-vous comment est-ce que, dans le fond, c'est très égoïste, parce que l'égoïste, c'est de vouloir se faire plaisir au détriment de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir tant que vous voulez, si ça dérange pas la vie de personne d'autre. Alors ça, c'est de l'amour de soi, de vous faire plaisir. Mais pas quand ça commence à, là, vous avez besoin de déranger la vie de quelqu'un d'autre pour que ça vous fasse plaisir, mais ça, c'est plus de l'amour, c'est de l'égoïsme. Et dans une autre chose qu'on peut voir aussi chez les gens qui ont des attentes non justifiées, ce sont des personnes qui dépendent du bonheur des autres pour être bien, ou leur bonheur dépend des autres. Alors ça, dans tous les exemples que j'ai donnés, vous pouvez facilement vérifier ça. Bon, comme la personne qui s'attend que quand elle fait la mère, qui s'attend quand elle fait un bon repas, puis elle a essayé un nouveau mec, que tout le monde devrait dire c'est bon, puis mon Dieu, merci beaucoup pour le bon repas, tu sais. Fait que son bonheur dépend de la gratitude des autres. Si personne dit un mot, ou pire que ça, si les gens arrivent puis disent « on n'a pas faim », ou bien « qu'est-ce que t'as fait encore comme repas, puis elle, elle a travaillé 3 heures dans la cuisine à essayer quelque chose de nouveau », ah ben là, tu sais, elle n'est pas heureuse. C'est ça, son bonheur dépend de ce que les autres vont dire ou de la réaction des autres. Ça, c'est vraiment de se mettre dans une situation très difficile parce que on va contre les lois. On peut pas. Si vous êtes heureux juste quand les autres font ce que vous voulez, ça va avoir beaucoup de difficultés à être heureux parce que qui dit que les autres sont obligés d'être à votre service comme ça, tu sais? Puis on être heureux. Quand notre bonheur, le bonheur des autres aussi, on dépend du bonheur des autres pour le nôtre, c'est une personne qui a une attitude là, d'établie d'avance qu'elle, pour être bien, c'est si tout le monde est heureux dans la maison, là, ben là, elle est heureuse. Fait que là, si tout à coup, le mari bougonne une journée où les enfants sont pas heureux, ça va être le genre de personne qui va faire des pirouettes à plus finir pour rendre les autres heureux, hein? Fait que là, elle fait tout ça, mais elle a des attentes en retour. Puis, quand une personne fait des pirouettes pour essayer de changer une situation, tu sais, monsieur le mari, disons, qui est inquiet, il est nerveux, il est négatif de ce temps-là, puis là, elle voudrait donc le rendre heureux. Bien, avez-vous remarqué que cette personne-là fait jamais les bonnes choses au bon moment? Elle en fait bien trop, puis elle vient bien plus achalante que d'autres choses, puis là, elle a bien des chances même de se faire retourner de bord, puis là, elle va dire, là, elle va être toute déçue, parce qu'elle va dire, mais comment ça se fait, mon Dieu Seigneur, il devrait être chanceux d'avoir une femme comme moi qui m'occupe de lui, je veux juste l'aider, puis comment ça se fait qu'il me retourne, tu sais, puis elle va lui dire aussi, j'étais sûre que t'aimerais ça, tu sais, j'ai pas fait ça pour mal faire, puis là, elle va être dans tous ses états. Alors, c'est, comme vous voyez, il y a rien de positif, il y a rien qui est bon là-dedans, d'avoir des attentes non justifiées. Et quand est-ce qu'on le sait, ou comment on le sait qu'on a des attentes? C'est quand on s'aperçoit qu'on est déçu, désappointé, frustré. Quand vous vivez ces émotions-là, là, vous pouvez être assuré, là, prenez le temps de vous arrêter quand vous allez en devenir conscient de votre émotion. Puis là, dites, quelle attente que j'avais? Puis vous allez voir qu'il y en avait des attentes. Ça fait vivre, en plus ces émotions-là que j'ai mentionnées, ça fait vivre beaucoup de colère envers soi-même. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est les attentes sont derrière tous les paquets de rancunes qu'on garde dans notre vie. Puis même la haine. Hein? Une personne qui haït quelqu'un, c'est parce que elle s'attendait à ce que cette personne-là soit de telle façon, puis ça a été le contraire. Fait qu'elle s'attendait que l'amour, c'est telle chose, puis ça a été, en étant le contraire, puis c'est devenu de la haine. Parce que ça prend beaucoup d'amour pour haïr, hein? Et justement, la semaine dernière, à Bellefeuille, il y a des gens là qui sont là, des résidents. Puis je faisais un travail avec ces gens-là. Et c'était intéressant de voir l'histoire d'une dame. Je la raconte parce que c'est tellement des cas typiques qui peuvent arriver dans plusieurs familles. Une dame de certain âge qui me dit, là, qui me racontait comment elle en veut à sa sœur. Elle dit, je vous dis, là, ça fait, je n'ai jamais voulu à quelqu'un comme ça. Elle gardait une rancune, là, ça la mangeait, sa rancune. C'était vraiment en train de la rendre malade. Elle dit, ma sœur, là, c'est bien simple, je sais pas qu'est-ce que j'y ferais tellement j'y en veux. Alors, je lui demande qu'elle me raconte qu'est-ce qui se passe. Elle dit, ma mère a 84 ans. Elle est placée dans un foyer d'accueil. Puis là, elle attend juste la visite de ses filles. Fait que là, elle vit juste pour ça. Puis là, moi, elle dit, je prie pour y aller 3 fois par semaine parce que ma sœur, elle, est pas capable d'y aller aussi souvent. Elle veut pas y aller aussi souvent. Elle trouve que ça la déprime d'aller voir ma mère. Puis, fait qu'elle y va juste quand elle, madame, ça y fait son affaire. Puis c'est moi qui ai prié pour y aller 3 fois par semaine. Puis ça, ça fait longtemps que ça dure, là. Ça fait plusieurs mois. Fait que plus ça allait, fait qu'imaginez, à toutes les semaines, là, c'est toujours de plus en plus de rancune. Elle y en veut, puis elle y en veut. Alors, voyez-vous, dans cet exemple-là, comment tous les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, le manque de communication, parce qu'elle croit qu'une bonne fille est supposée de s'occuper du bonheur de sa mère, parce que ça, c'est elle qui croit ça. Tu sais, c'est pas parce que la mère a des attentes que les enfants sont obligés de courir. Elle croit qu'elle va être une bonne fille, elle a peur de passer pour une ingrate, une égoïste aussi, ça y va pas. Parce qu'elle croit ça, elle voudrait que sa sœur croit ça. Puis elle n'accepte pas l'idée que sa sœur, elle, respecte ses limites. Elle, j'ai dit, toi, comment tu te sens quand tu y vas? Elle dit, j'aime pas ça. Je me force toujours à chaque fois. Ça me déprime moi aussi. Elle dit, pas plus que ma sœur. Autant que ma sœur, mais elle dit, moi, elle se pense bien bonne parce qu'elle, elle se force. Mais j'ai dit, toi, là, en te forçant, toi, tu seras malade. L'autre est bien plus intelligente, elle ne se rend pas malade. Mais elle dit, elle se sent coupable. Tu sais, ben, j'ai dit, peut-être, mais au moins, elle est capable de s'affirmer un peu plus que toi. Tu sais. Fait que voyez-vous, il n'y a jamais eu une promesse. Sa sœur n'a jamais promis qu'elle irait aussi souvent qu'elle. Puis j'ai dit, toi, là, t'étais-tu engagée avec ta mère quand elle s'est en allée dans son centre d'accueil que, oui, tu y irais tant de fois par semaine? Ça, as-tu été entendu d'avance, cette chose-là? Ben, elle dit, non, jamais. Tu sais, c'est ça, le pire. C'est tout dans notre tête, cette affaire-là. Puis on décide ça, puis sans vérifier. Puis ensuite, ben, là, elle veut absolument que sa sœur y aille. Alors, la raison pour laquelle elle veut qu'elle y aille, c'est pas pour sa mère qu'elle veut que sa sœur aille. C'est pour elle. Si ma sœur y va, moi, je n'aurais pas besoin d'aller aussi souvent. Fait que, vous voyez, c'est une raison égoïste. Puis là, même, elle avait tellement la contrôler puis la diriger qu'elle dit, là, pour y montrer à ma sœur, elle dit comment est-ce qu'elle est pas correcte, là? Elle dit, j'ai arrêté d'aller voir ma sœur. Là, je vais lui donner une bonne leçon. Elle va voir qu'est-ce que c'est quand on va plus le visiter. Elle dit, elle va pas visiter maman, ben moi, je vais pas visiter. Voyez-vous, là, comment c'est ça, c'était sa façon de contrôler. Mais dans le fond, elle aime sa sœur. Puis elle voudrait bien plus d'avoir une belle relation harmonieuse avec sa sœur. Fait qu'en plus de vivre toutes ces émotions-là, elle se punit en punissant sa sœur, en croyant punir sa sœur, tu sais, de pas aller la voir. Fait que là, c'était une situation qu'on voyait, quand elle en parlait, là, tu sais, ça en mordait dedans, là, tellement que ça la dérangeait. Et ça, c'est très, très nocif, ça fait du mal à tout le monde. Imaginez la mère, pensez-vous que la mère ne le sent pas, ça, que ses filles se forcent pour aller la voir, tu sais? Puis si ses filles étaient capables de juste s'affirmer puis dire, maman, on t'aime bien, mais c'est trop pour nous autres, tu sais? C'est trop de venir aussi souvent que ça, tu sais? On peut-tu avoir une entente? Tu sais, les deux aller chacun leur tour ou y aller un peu moins souvent. Tu sais, c'est comme ça, les attentes, qu'est-ce que ça produit? Fait que le moyen de savoir, c'est par les émotions que vous allez vivre. Puis d'un autre côté, ben, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moins, il y a un bon côté. Ça, c'est j'essaie toujours de trouver le bon côté à tout. Le bon côté d'avoir des attentes puis vivre des émotions, c'est que ça vous aide à devenir conscient. Ça vous aide tout à coup à réaliser là combien votre tête a pris le dessus. Parce qu'aussitôt que vous êtes dans les attentes, vous savez que le cœur n'est plus là. C'est juste mental, parce que c'est avec notre mental qu'on croit des choses, puis qu'on décide des choses, puis là, c'est le mental qui décide. La tête a dit, une bonne fille est supposée d'aller voir maman quand elle est malade, bon ben ok, tu sais, puis elle va pas vérifier avec son cœur qu'est-ce qu'elle a besoin cette journée-là. Et ça, alors moi, tu deviens conscient des peurs que tu as ou des croyances qui sont pas bonnes. Alors ça, c'est le bon côté des attentes. Et après que, bon, vous êtes devenu conscient que vous avez une attente, la chose première à faire, c'est d'aller vérifier s'il y avait eu un engagement ou une promesse. Fait que si vous attendez à quelque chose de quelqu'un d'autre, vous êtes déçu, vous avez une émotion, puis vous vous arrêtez, puis vous dites, « Maman, avais-tu promis ça à l'autre personne? On s'était-tu vraiment entendu là-dessus? Est-ce que c'était clair? J'allais voir que c'était pas clair, tu sais, que, en tout cas, à 95 % du temps, là, vous allez voir que les attentes où vous vivez beaucoup d'émotions, ça n'avait pas été vraiment convenu comme il faut entre les deux personnes. Et déjà, juste ça, là, ça nous aide à dire, ben, dans le fond, tu sais, je peux pas en vouloir à l'autre. Si, là, je vis des émotions, c'est parce que moi, j'avais décidé de quelque chose sans vérifier. Et la même chose, vous faites la même chose avec vous-même aussi. Quand vous vous apercevez que vous êtes déçu, frustré, en colère face à vous-même, ça vous arrive des fois, vous autres, hein, d'être déçu de vous-même? Hein? On a oublié quelque chose d'important. Puis là, on se tape sur la tête, puis on est déçu parce que c'est épouvantable. Alors, allez voir la même affaire. Ça, c'est parce que vous aviez une attente face à vous-même. Puis allez vérifier en dedans. Est-ce que je me suis engagée à un moment donné, moi, dans ma vie, à ne jamais rien oublier? Tu sais, fait que là, vous allez voir que c'est même pas réaliste. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire des promesses comme ça. Puis c'est pour ça qu'on vit autant d'émotions, parce que on se crée un idéal qui est même pas atteignable, parce que dans le monde, notre monde physique, on peut pas jamais manquer à quelque chose. On peut pas faire une promesse puis ne jamais manquer à ça. Ça arrive des fois, ces choses-là. Et grâce à ça, ça va vous aider à réaliser qu'il y a un manque d'amour envers vous-même, que vous vous exigez des choses, vous vous forcez à faire des affaires comme on le fait avec d'autres personnes. Puis c'est ça qu'on appelle aimer avec attente. C'est pour ça qu'aimer avec attente, quand on regarde le tableau d'amour d'Écoute ton corps, c'est sur le côté de l'amour qui est dérangeant, qu'on appelle emprisonnant, possessif. C'est un amour qui... C'est sûr qu'il y a de l'amour, mais c'est un amour qui est difficile à vivre. Alors, on va apprendre à aimer sans attendre, parce que justement, ça nous fait réaliser que on s'en demande beaucoup trop, puis on en demande beaucoup trop aux autres aussi. Et ensuite, quand on parle d'amour véritable aussi, on dit que c'est important d'être capable de guider sans attendre. Là, ça, c'est la même chose. Combien ça fait vivre d'émotions? Quelqu'un donne un conseil à quelqu'un d'autre. Puis, la plupart du temps, on donne un conseil quand il ne nous a pas été demandé, de toute façon. Puis même si la personne nous demande, elle dit, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Vous donnez votre conseil, vous lui dites ce que vous feriez. Puis là, on s'attend que l'autre va le suivre. Puis là, on est choqué, on dit, hey, franchement, pour qui qu'elle me prend? J'ai encore perdu mon temps. J'ai passé une demi-heure avec elle pour essayer de l'aider, puis tout, il me montrait comment faire, là. Puis là, elle retourne de bord, elle fait le contraire. Est-ce que l'autre vous a promis qu'elle suivrait votre conseil? Alors ça veut dire que si vous guidez ou vous donnez des conseils à quelqu'un, puis vous vous attendez qu'il les suive, vous ne l'avez pas fait ça par amour. Vous faites ça encore d'une façon égoïste. Vous donnez un conseil, non parce que vous voulez donner, vous donnez un conseil pour que l'autre le suive, pour qu'elle vienne vous dire après, « Ah, merci beaucoup, grâce à toi, t'as tout réglé dans ma vie. » Puis là, ah, mon Dieu, je suis spéciale. Tu vois, c'est ça, quand on aime d'une façon qu'on n'aime pas avec notre cœur, c'est... Quand on aime avec notre tête, c'est toujours, on a besoin des autres pour qu'ils viennent nous apporter l'amour que nous autres, on pourrait se donner. Alors, c'est ça que ça nous aide à découvrir qu'on manque d'amour pour soi. Alors, comme vous voyez, donner sans attente est aussi super important. Toujours donner sans attente, ça, c'est vraiment l'amour véritable, tu sais. Puis, c'est facile à vérifier, hein. Regardez, là, à chaque service que vous rendez, vous recevez quelqu'un à manger, vous donnez un cadeau à quelqu'un à Noël. Comment vous vivez ça si l'autre vous fait pas jamais de cadeau? Tu sais, l'autre ne fait rien en retour. Vous donnez de votre temps, puis vous aidez quelqu'un souvent. Puis là, tout à coup, vous avez besoin d'aide, puis vous appelez cette personne-là à qui vous avez rendu service souvent. Puis là, elle dit, non, sais-tu, j'ai pas le temps, ça me donne pas. Tu sais, là, tu vis des émotions, tu dis, elle, ça fait 5 fois que je l'aide, puis gars, qu'est-ce qu'elle fait en retour? C'est en train de vous dire, vous aviez des attentes, vous n'avez pas véritablement donné. Puis le pire, c'est que les personnes qui ont beaucoup d'attentes se croient des donneurs, parce qu'ils sont tellement occupés à s'occuper des affaires de tout le monde, qu'ils pensent qu'ils sont des grands donneurs, puis en réalité... C'est pas ça être un donneur. Si tu donnes pour recevoir en retour, c'est pas donner. C'est toujours vouloir recevoir. C'est pas du tout la même chose. Et tandis que si on donne juste pour le plaisir de faire plaisir à l'autre, en sachant que de toute façon, tout nous revient dans l'univers. On n'a pas besoin de s'attendre à ce que l'autre nous dise merci ou d'être de la gratitude ou nous remettre le service. On sait que ça va nous revenir de toute façon. Ça, c'est la grande loi de cause et effet ou la loi du retour. Fait que c'est ça, vraiment, donner. Donner juste pour le plaisir de donner, pour le plaisir que ça donne, que ça apporte à l'autre personne, tu sais, puis que c'est pas grave si l'autre nous le remet pas, vous allez le recevoir d'une autre façon. Parce que si vous êtes pas capable de donner sans attendre, ça veut dire que vous ne savez pas recevoir non plus. Ça se fait, c'est automatique. Les deux vont toujours ensemble. Alors, si vous vous voyez comme une personne qui avait de la difficulté à recevoir, ben regardez plus loin. Si vous avez de la difficulté à recevoir, c'est parce que vous avez de la difficulté à donner sans attendre. Parce que si je reçois de quelqu'un, puis je crois qu'il faut que je fasse quelque chose en retour. Hein, c'est ça. Parce que moi, si je donne à quelqu'un, puis je m'attends qu'elle me donne quelque chose en retour, bien, c'est la même affaire. Si quelqu'un me donne, bien, je me dis, moi, qu'est-ce que je vais lui donner en retour? Fait que c'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup recevoir, parce que là, on se croit endetté. Je n'irai pas manger chez elle, parce que là, j'étais obligée de l'inviter après ça pour qu'elle revienne chez moi, puis j'aime pas bien ça faire à manger, fait que j'accepterai pas l'invitation. Quelqu'un t'offre de payer ton repas au restaurant. « Oh non, j'accepterai pas parce que la prochaine fois, c'est moi qui vais faire qu'il paye, puis tout à coup, ça coûte plus cher la prochaine fois. » Hein? Ça, c'est tout. C'est des choses qui arrivent à tous les jours. Alors, regardez-vous aller, là, quand... Plutôt, êtes-vous capable de juste dire « Merci beaucoup » quand quelqu'un veut vous donner quelque chose. Puis, juste dire « Merci », puis je n'ai pas pensé, là, du tout. « Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien faire en retour? » Ou bien, quand est-ce que je vais être obligée de remettre ça? Puis là, vous allez réaliser que si vous pouvez vérifier ça comme ça, si vous êtes une personne qui est en train d'apprendre à donner sans attendre, regardez comment vous recevez. Puis, ça, parce que si, là, vous êtes vraiment capable de donner, puis vous avez du plaisir à donner, puis vous attendez à rien en retour, bien, quand quelqu'un vous donne, puis vous recevez, bien, vous allez être capable de sentir le plaisir de l'autre. Hein? C'est logique. Puis dis, bon, ben, je n'ai pas besoin d'y remettre. Elle m'a donné parce que ça lui faisait plaisir de me donner quelque chose. Alors, c'est une bonne indication pour voir où sont rendues vos attentes là-dedans. Par contre, je vais passer maintenant à une autre chose que c'est bien important de parler, c'est qu'il y a des temps, il y a des circonstances où on a le droit d'avoir des attentes. Parce qu'on dit on doit aimer sans attente, on doit guider sans attente, puis tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais y avoir d'attente. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, quand il y a une attente, quand c'est justifié, quand il y a eu un engagement, une promesse, c'est tout à fait normal de s'attendre à quelque chose, parce qu'on sait que c'est plus que probable que ça va arriver, vu que ça a été entendu comme ça. Alors, si, disons, je donne quelque chose à quelqu'un, puis c'est clair et net, je dis, bien, je te donne ça, Marto, je te demande de me rendre tel service. Hein? Si c'est clair, puis l'autre dit, OK, j'accepte, ça me fait plaisir, OK, je vais le faire, bien, ça devient une entente, hein? Une entente, une négociation ensemble. C'est la même chose que tu vas travailler à quelque part, tu dis, OK, au patron, je vais faire tel travail pour vous, puis en échange, vous me donnez tel salaire. Alors, on a le droit de donner des choses. Parce qu'il y en a qui disent, fait que ça veut dire qu'à ça, il faudra que je donne tout, là, puis jamais m'attendre à rien. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Par contre, si tu veux avoir quelque chose en retour, que ce soit clair. C'est juste ça que je suis en train de dire. Arrangez-vous pour faire vos demandes, puis que ce soit clair avec l'autre. Alors, c'est bien, bien important que ce soit clair. Puis là, après ça, là, c'est une attente justifiée. Comme au restaurant, c'est la même chose. Hein? Des fois, on arrive au restaurant, puis on est pressé. On donne notre commande, puis on s'attend à être servi tout de suite. Mais est-ce que ça a été demandé? Est-ce que ça a été... communiquer à la serveuse, j'ai une demi-heure, j'ai 40 minutes, est-ce que si je commande telle chose, est-ce que c'est possible de l'avoir dans ce délai-là? Parce que, en tout cas, moi, je l'ai appris à mes dépens, parce que ça arrive assez souvent que je vais au restaurant, puis j'ai pas beaucoup de temps, et de vérifier comme ça, parce que j'ai vécu des émotions dans des circonstances comme ça, où ça arrivait pas, puis d'un coup, à la dernière minute, elle me dit, bien, vous auriez dû me le dire, madame, parce que ça, c'est un mec qui est long à cuire, ou bien, dans le moment, il manque du personnel dans la cuisine, puis c'est impossible d'aller plus vite, tu sais, ça fait que c'est ça, on s'attend, c'est pas clair. Alors que ce soit toujours de plus en plus clair. Vous allez voir que c'est pas la chose la plus facile, hein, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'années. En tout cas, je sais que moi, je travaille là-dessus. Puis toute l'équipe Écoute ton corps, on travaille sur communiquer d'une façon plus claire entre nous autres, parce qu'il y a souvent eu des attentes. Puis nous, on dit, je pensais telle affaire. L'autre, moi, je pensais le contraire. T'sais, chacun pense, chacun de leur bord, mais sans vérifier avec l'autre. Hein. Puis ça peut créer souvent des gros problèmes. Vous allez voir que c'est la chose la plus difficile dans tout, là, quand vous allez avoir réussi à maîtriser la partie de communication, là, c'est vraiment spécial ce que ça peut faire de différence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une attente justifiée? L'autre nous a promis quelque chose, mais il ne garde pas sa promesse. Hein? Alors ça, c'est quand c'était tout clair, ça pourrait être au travail. Ça, j'ai souvent ces questions-là. Un patron qui dit, mes employés, ils font pas ci, ils font pas ça. Puis là, je lui demande la première question, est-ce que ça a été clair au moment de l'engager? Est-ce que c'est l'employé sait exactement ce qu'il a à faire? T'sais? Ben oui, je lui répète, puis là, je lui rappelle ses engagements, puis là, c'est bon pour quelques semaines, puis après ça, ça recommence. Là, il en prend un pouce, après, il en prend deux, trois, quatre, puis vous avez connu ça, vous êtes aussi des gens, hein, tu leur donnes un pouce, puis ils prennent un pied. Et c'est toujours à recommencer. Alors, dans ce temps-là, quand vous, ça peut être à votre travail, ça peut être avec votre conjoint, avec les enfants, c'est là qui vient le côté d'être conscient de nos limites. Regardez jusqu'où est votre tolérance. Puis on a le droit d'avoir des limites. D'ailleurs, c'est tout à fait humain d'avoir des limites. Il n'y a pas un humain qui n'a pas de limites. Regardez, si vous essayez de lever des poids, à un moment donné, on a tous une limite à quelque part. Mais il y en a que leur limite est beaucoup plus large que d'autres personnes. Nos limites s'élargissent à la longue, bien souvent, dans bien des domaines. Alors, c'est là que c'est bien, bien important que ce soit clair jusqu'où faire prendre. Fait que ce soit un patron avec un employé ou un employé avec un patron, c'est de dire, là, ça fait plusieurs fois, on s'en parle. Tu me promets de faire telle chose, tu ne gardes pas ta promesse, je veux juste te dire que là, moi, je suis rendue au seuil de ma limite, de ma tolérance, puis là, une autre fois, puis ça va être tout, ça va être fini. Tu sais, que ce soit clair. Fait que si l'autre personne, finalement, est congédiée après, elle ne sera pas du tout surprise. Et puis, c'est la même chose avec un conjoint. C'est sûr qu'on veut arriver un jour à avoir beaucoup de tolérance puis beaucoup d'amour, mais tu sais, faut y arriver à ça. En attendant, c'est pas mieux si vous allez au-delà de vos limites, vous allez vous faire mal à quelque part. Autant si vous allez au-delà de vos limites physiquement, que ce soit à lever des poids ou à faire de la course ou à faire des sports au-delà de vos limites, vous savez que vous endommagez possiblement votre corps. Bien, on le fait la même chose au niveau émotionnel et mental. C'est, dans le monde matériel, on a tous des limites. Puis le monde matériel, ça comprend physique, émotionnel et mental. Alors, donnez-vous le droit d'avoir des limites. Ensuite, si vous dites à une personne, c'est au-delà de ma limite, puis là, si ça se produit une autre fois ou s'il arrive telle circonstance, je vais faire telle chose, puis là, vous le faites pas, là encore, vous voyez, l'autre pourra pas vous respecter parce que l'autre va dire, toi, tu t'es engagé à faire telle affaire, puis tu t'es pas mieux, toi. L'autre garde pas son engagement, puis toi, tu gardes pas. Tu sais, combien j'ai vu de parents dire aux enfants, là, si ça va pas comme ça, là, parce que les parents ont le droit de faire des règlements dans la maison. On va faire apprendre à vivre avec des certaines lignes de conduite à quelque part, tu sais. Et alors, si là, les parents font le règlement, tu t'es entendu, tout est clair, et que là, ils disent à l'enfant, si ça marche pas, la prochaine fois, là, je vais être obligé de couper la moitié, disons, de l'argent que je te donne à chaque semaine, puis quand tu le fais pas, l'enfant va dire, c'est pas mieux que moi. Moi, j'ai pas gardé ma parole, puis elle la garde pas la sienne. C'est important d'être capable aussi de garder votre parole, de garder de votre côté. Hein? Et c'est bien, bien important de pas avoir peur d'avoir des limites puis de les exprimer aux autres. Parce qu'il y en a qui ont peur d'être jugés là-dedans. Surtout, j'ai surtout remarqué, avec une figure d'autorité, disons, s'il y a une autorité comme un patron ou si t'es supposé d'être de telle façon, tu penses que l'autre s'attend à telle chose, comme les parents avec les enfants. Ayez pas peur, les parents, de dire à vos enfants que c'est telle chose, c'est ça votre limite. Ça, c'est bien, bien important. On pense que les autres vont avoir une moins bonne opinion de nous autres si on leur avoue qu'on a certaines limites, puis c'est le contraire. Hein? Ils vont vous respecter beaucoup plus si vous êtes capable d'être vrai avec vous autres même comme ça. Et je sais que c'est encore beaucoup plus difficile de vivre ça sans colère, là, quand c'est quand les attentes sont justifiées, là. Ça, c'est, tu sais, quand on vit de la colère, puis là, on regarde, puis on dit, oh ben dans le fond, tu sais, il n'y a pas eu d'entente. C'est même pas justifié, mon enfant. J'ai même pas le droit de m'attendre à telle chose. C'est vrai que l'autre m'a pas promis. Mais quand l'autre a promis quelque chose, là, puis que vous vivez de la colère, même si ça a été vraiment promis, là, puis ça s'est fait, allez voir, il y a encore quelque chose à regarder là-dedans. Si l'autre n'a pas gardé sa parole, puis que ça vous fait vivre la colère, allez voir que la colère vient face à vous-même. On pense qu'on est en colère après l'autre parce que l'autre n'a pas gardé sa promesse, là, puis on s'attendait à ça, puis l'autre l'a pas fait. Puis c'est face à soi-même, puis en général, c'est parce qu'on n'est pas assez capable de s'affirmer. Je vais donner un autre exemple encore avec un autre de mes fils. Je pense qu'avec des exemples, c'est plus facile, hein? Vous voyez plus facilement avec ça. À qui j'avais prêté mon auto plusieurs reprises. Puis moi, ben j'aime bien qu'elle me revienne en même condition que je la prête. Puis ça, c'était clair. Bon, une fois, elle me revient toute sale, une fois, elle me revient plus de gasoline, une autre fois, elle me revient plein de sacs des restants du McDonald's, là, puis tout ce qu'il avait mangé, là, dans l'auto, là, tu sais. Et puis, fait que là, je me suis dit, je veux plus y prêter mon auto. Et ça, je m'étais dit ça va faire, là, tu sais, il me semble. Mais je me suis aperçue, par contre, ces fois-là, que j'avais pas dit, ben là, je m'attends à ce que ça soit de telle façon. Tu sais, je me semblais qu'il était assez intelligent, qu'il aurait dû savoir ça. Hein? Un jour, il est chez nous, puis il veut juste aller faire une course. Moi, je sais que je dois partir dans une demi-heure, mais la course qu'il faut qu'il fasse, c'est à peu près à 5 minutes. Là, c'est pas vraiment en bas de la côte. Et il dit, je peux te prendre ton auto juste pour aller et revenir. Ben, j'ai dit, fait que moi, dans moi, je me dis, oui, il y a le temps, tu sais, juste aller. Là, il n'y a pas le temps de la salir puis d'aller manger à quelque part, tu sais. Puis, fait que là, je me dis, ah ben oui, t'as le temps d'y aller avant que je parte. Mais moi, je dis pas que j'ai un rendez-vous pour que je parte dans une demi-heure. Vous voyez, encore, il manquait une clarification. Parce qu'il me dit où est-ce qu'il s'en va, je le sais que c'était juste à quelques minutes de la maison. Une heure plus tard, il est toujours pas revenu. Fait que moi, ça veut dire là que je vais arriver en retard, tu sais. Alors, là, j'ai eu le temps pendant la... Tu sais, j'ai eu un bon 3 quarts d'heure, là, à fumer en dedans. Et puis là, de tout vraiment regarder. Puis j'ai dit, comment ça se fait, là? Tu sais, là, c'est vrai que j'ai pas dit, je pars dans une demi-heure. J'ai pris pour acquis qu'il allait là, puis qu'il revenait, comme il m'avait dit. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'il c'était un magasin où il allait chercher un morceau, là, de, je sais pas, de plomberie ou quelque chose. Mais il n'avait pas ce magasin-là, puis il a décidé d'aller au magasin Saint-Sauveur. Fait que c'est ça que... Fait que lui, il savait pas, là, que je partais à ça, là. Et là, j'ai vraiment vu que dans le fond, ma colère, c'était pas envers lui. C'était envers moi parce que je m'étais déjà dit, j'y prête plus. Puis j'étais encore en train d'y prêter. Puis je gardais pas mon engagement face à moi-même. Puis là, j'ai vu que j'avais peur de passer pour une mère ingrate sans cœur, puis tout ça, tu sais. Et fait que là, ça, j'ai tout eu le temps de faire mon processus, le temps qu'il est revenu. Puis quand il est revenu, j'ai tout raconté ça, là, ce que j'avais vécu, là, pendant qu'il était choqué, comment je m'étais choquée au début. Après ça, j'avais vu ça. Puis j'ai dit, non, là, c'est clair maintenant, là, c'est fait, là. Même à peine de penser que je pourrais passer pour une mère sans cœur, là, je te la prête plus l'auto, tu sais. Fait que, puis ça a très bien passé, il n'a pas dit un mot, puis il ne me l'a jamais redemandé plus ça, là. Vous voyez, ça s'est fait, c'était placé en dedans de moi. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vivez une colère, que ce soit une attente justifiée ou non, il y a quelque chose à aller voir pour vous autres là-dedans, tu sais. Puis c'est sûr aussi que quand on s'aperçoit que les autres ne gardent pas leurs promesses envers nous autres, il est important aussi que vous regardiez le fait, si je récolte ça présentement, que quelqu'un, moi je m'attends à quelque chose, puis comment ça se fait? Il me semble pourtant, c'était clair. Regardez, est-ce que ça vous arrive, vous autres, de pas répondre aux attentes des autres des fois? Est-ce que ça vous arrive des fois de faire une promesse, puis de pas répondre à ça sans avoir pris le temps de vous désengager? Puis ça, c'est la même chose, ça arrive souvent beaucoup d'émotions dans des cas de quand on prête quelque chose, hein. Vous allez avoir des bonnes occasions pour faire des beaux processus. À chaque fois que quelqu'un vous demande de vous prêter un morceau de linge, un outil, puis un livre, puis là, tu es obligé de courir après, là, tu sais, ils te le remettent pas, là, puis ou ça te revient dans un... dans un état pitoyable, là. Et alors, utilisez ça, utilisez ces choses-là pour voir, tu sais, pour réaliser combien on a d'attentes, puis que ça n'a pas été bien, bien clair. Alors, on veut en arriver, c'est sûr, à être capable d'avoir des attentes et puis de réussir à pas être déçu quand notre attente, c'est pas manifestée. Tu sais, c'est vraiment un beau lâcher-prise. Tu sais, être capable de vivre ça, là, c'est mettez-vous ça comme but. Tu sais, dites-vous, là, je veux en arriver à ça. Puis surtout, ayez pas peur que vous allez vous faire marcher sur la tête à cause de ça. C'est ça, hein, qui est le pire. On se dit, là, hey, s'il me fait une promesse, puis l'autre ne me garde pas sa promesse, puis que je dis rien, là, puis que je laisse faire ces choses-là, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas qu'on dit rien, c'est juste d'être capable de pas vivre d'émotions. Puis être capable de juste regarder ce qui nous appartient là-dedans. C'est ça qu'on va arriver à faire. Puis vous allez voir comment il va se passer quelque chose au niveau du cœur, puis au niveau de vos relations. Ça va être tout à fait différent des relations avec les personnes avec qui vous aviez des attentes. Une autre question que j'ai souvent au niveau des attentes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on se donne un but? Tu sais, je me fais un but, là. Est-ce que c'est normal d'avoir des attentes? Est-ce que je devrais avoir des attentes? Il me semble que si je me fais un but, puis je travaille dans ce but-là, puis je fais ci, puis je fais ça, puis ça fait des mois que je travaille envers quelque chose. Tout à fait normal d'avoir des attentes. Alors, c'est même à ça, là, moi, je vous suggère de ne pas avoir d'attentes. C'est sûr qu'on espère, c'est notre but, on travaille dans ce but-là, mais comme on sait que avoir une attente, c'est toujours mental, parce que si je m'attends à quelque chose, parce que je suis allée dans ma tête, ça m'a dit ça avec ça, avec ça, avec ça, égal, je devrais avoir telle affaire. C'est toujours avec notre intellect qu'il se produit une attente. Et dans votre vie, quand vous voulez aller de l'avant, ça ne doit plus être votre intellect qui dirige. On utilise notre intellect pour aller dans la direction où on veut. On se dit, bon, ben, tu sais, mon but, c'est d'arriver à telle chose, à telle date, disons. Alors, pour ça, je vais être obligée de faire telle chose. Alors, ça, c'est notre intellect qu'on utilise. Puis ça, c'est très bon, parce que l'intellect est là pour ça, justement, pour nous aider dans des situations comme ça. On planifie notre but, on fait des actions en conséquence. Mais l'important, c'est d'être capable de faire tout ça, mais dire, si j'ai pas ce que je veux au bout de la ligne, si c'est pas comme je m'attends, est-ce que je vais être capable de juste me retourner de bord? Est-ce que je vais être capable d'accepter l'idée qu'il y a peut-être une force supérieure à mon intellect qui connaît mieux que moi? Alors, quand vous avez... N'arrêtez pas d'avoir des buts, mais vous attirez beaucoup d'émotions encore plus problèmes si vous pensez que vous êtes correct quand vous avez atteint votre but. Ça peut être juste... ce que vous avez fait pour atteindre ce but-là peut être juste un petit détour pour arriver à autre chose. Grâce à ce bout de chemin-là que vous avez fait, puis disons que ça n'arrive pas ce que vous voulez, ça va vous amener dans un autre sens. Parce que si vous voulez prendre une route qui est là-bas, peut-être que vous avez besoin d'une route intermédiaire entre ça. Et d'apprendre à s'ouvrir qu'il y a notre partie spirituelle en dedans de nous autres connaît beaucoup plus de choses que notre mental peut en connaître. Mentalement, on connaît juste ce qu'on a appris à date. Hein, c'est ça le mental, c'est de la mémoire. Tandis qu'au niveau, quand on se laisse aller à notre Dieu intérieur, puis qu'on dit, bon, ben moi, avec ce que je connais, je pense que c'est ça qui serait le mieux pour moi. Mais par contre, si c'est pas ça qui arrive, c'est parce qu'il y a d'autres choses de mieux. Puis alors, avec des buts, c'est l'attitude que je vous suggère d'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand ce sont les autres qui ont des attentes face à nous autres? Ça aussi, ça arrive, hein? Puis là, alors, si vous pouvez peut-être me dire, ben moi, c'est pas si pire, je suis capable de m'en sortir, mais moi, c'est mes enfants qui ont telle attente, puis ma mère, elle s'attend à telle affaire, tu sais, comme notre fameuse dame, là, tu sais. Encore une fois, il y a quelque chose à faire au niveau de la communication, il y a certainement quelque chose qui n'a pas été clair. Et aussi, dites-vous bien que ça peut être des personnes qui vous ont mis sur un piédestal, ça peut être des personnes qui... Ils pensent que vous allez être capable de faire telle ou telle chose. Puis eux autres aussi, c'est selon leurs croyances. Ils s'attendent à des choses de vous autres. Ils n'ont pas vérifié avec vous autres. Les autres, ils ont fait la même chose. C'est sûr que vous allez peut-être voir réaliser avec ça que vous le faites, vous autres aussi, avec d'autres personnes. Là. Quand vous voyez que quelqu'un vous le fait, c'est sûrement parce que vous autres, vous le faites avec d'autres personnes. Mais en même temps, utilisez ça pour apprendre à communiquer davantage. Alors, si la personne a dit, ben Ben moi, je t'assure que tu étais pour faire telle affaire, tu me sembles. Tu sais, l'autre jour, tu as dit telle chose. Ben moi, je suis pris pour acquis que tu étais pour le faire telle chose, tu sais. Fait que là, vous pouvez dire, est-ce que je m'étais vraiment engagée? Est-ce que je t'avais dit que je ferais ça sur cette semaine, telle affaire? Fait que là, ben, pas vraiment dans ces mots-là, là, tu sais, mais moi, il me semblait que c'est ça que ça voulait dire, tu sais. Alors, voyez-vous combien, c'est tellement souvent, là, hein, que ça arrive, ça, dans des relations entre amis, entre conjoints, entre parents, enfants, on présume, on décide, on va pas vérifier. Tu sais, on faut arrêter de t'en penser, tu sais, notre machine à penser, là, c'est vrai, c'est... ça m'a fait rire parce que la semaine passée, on est allé en vacances, puis quand on est revenu à l'aéroport, il y avait deux douaniers, puis on passait là aux douanes, fait qu'il s'est écrit visiteur puis résident, tu sais, au Canada. Fait que moi, ben, j'attends dans la rangée de résident parce que j'arrive là ici. Puis là, tout à coup, dans la rangée de visiteurs, il n'y a pas personne. Fait que l'autre, il me fait signe. Fait que je dis, ben j'ai pensé qu'il fallait que j'aille dans sa rangée. Madame, il faut pas penser, c'est dangereux penser. Le douanier qui me dit ça, j'ai dit, ah, il est correct, lui. Voyez, il m'a fait un beau message, là, tout en faisant son travail, tu sais, que c'est, comment est-ce qu'on se crée des problèmes, des fois, en souvent, en pensant. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de penser non plus. Il faut toujours atteindre un juste milieu, mais c'est ce qui arrive dans nos problèmes de communication. Un dit, ben, moi, t'as dit ça, j'ai pensé si, ou, mais as-tu vérifié avec moi si c'était vraiment ça? Fait qu'à force de le faire, là, vous allez voir que finalement, ça va finir par se faire graduellement, surtout avec les gens avec qui vous êtes souvent, là, que ce soit vous autres qui ayez des attentes ou bien que d'autres aient des attentes de vous autres. C'est au niveau surtout de la communication qui est le plus important. C'est bien, bien important de ne pas en vouloir aux autres non plus. C'est juste réaliser, bien, coudonc, elle a fait comme moi je fais avec d'autres personnes, t'sais. Et une question bien importante, est-ce qu'on peut arriver à ne plus avoir d'attentes? Non, c'est impossible. C'est impossible. Dans notre monde matériel, notre monde physique surtout, c'est bien normal d'avoir des attentes. Parce que, comme je dis, souvent, elles sont justifiées. Continuer à dire, oui, j'ai le droit d'avoir des attentes, mais ce que je veux surtout travailler, c'est de m'apercevoir si ça va pas comme je veux là, dans mon attente, d'utiliser ça pour apprendre à me connaître à travers ça. C'est surtout ce domaine-là. C'est pas vous forcer pour ne plus avoir d'attente parce que là, vous allez vouloir faire des choses qui sont pas réalistes, tu sais. C'est vraiment d'arriver à être beaucoup plus flexible, à vouloir moins contrôler, à découvrir vos peurs grâce à ça. Être capable de se retourner, tu sais, de dire, bon, ben, tiens, je m'attendais à telle fois, ça n'a pas arrivé comme je voulais, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Plutôt que s'asseoir là, pleurer, vivre des émotions, s'en faire, en vouloir à l'autre, vouloir punir les autres, vouloir se venger, tu sais, c'est vraiment être masochiste de faire tout ça, parce que personne n'est gagnant. Si au moins il y avait une personne qui était gagnante là-dedans, on verrait peut-être l'utilité, mais quand c'est pas utile à personne, c'est là qu'on peut dire que c'est même pas intelligent d'avoir ce genre d'attitude-là, parce que tout le monde en souffre de ça. Puis d'être capable de moins dramatiser les situations et vous donner la chance de vous affirmer. Premièrement, d'aller vérifier jusqu'où moi je peux aller, quelles sont mes limites, quel est mon seuil de tolérance. Puis après ça, communiquer avec les gens. Fait que vous allez voir comment graduellement, les choses vont se faire plus facilement. Puis grâce à ça, là, en travaillant beaucoup sur vos attentes, vous allez avoir de moins en moins de peur. Les fameuses croyances que vous avez qui sont pas bonnes pour vous autres vont finir par disparaître. Et puis, les rancunes avec, hein, ça c'est les choses, les rancunes et la haine, ça cause énormément de maladies. Fait que tout ça va se régler automatiquement, tu sais, ça va tout ensemble. Hein. Alors, surtout de travailler sur comment je m'y prends quand j'ai une attente et quelle est ma façon de communiquer puis d'être vraie avec les autres. Alors, je vous souhaite bonne chance avec vos attentes. Vous avez de la matière à réflexion là pour la semaine à venir, tu sais. Merci.
Alors, la première question, est-ce qu'un rêve ou un désir ardent depuis très longtemps et que l'on continue de croire et espérer que ça va arriver entre dans les attentes? Si oui, Quoi faire si on y tient plus que tout? Est-ce que l'on croit que ça peut nous apporter la paix intérieure?
D'après vous autres, c'est une attente? Ben, elle dit, je le désire plus que tout. Alors, vous le savez, c'est une attente. Regardez si ça m'arrive pas, cette chose-là. Là. Je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie là, si ça arrive pas, ce désir-là, si ardent? Puis si ça dit, ben, je serais bien déçu, puis frustré, puis désappointé, c'est une attente qui est pas bonne pour toi. Alors, c'est comme ça qu'on le voit. Si tu es capable de dire, oui, c'est vrai, c'est un désir ardent, je le veux plus que tout au monde, mais par contre, si ça m'arrive pas, c'est bien correct aussi, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux pour moi. Ben là, c'est tu as une attente présentement, puisque ça te ferait plaisir que ça arrive, puis tu comptes là-dessus. Quand on compte sur quelque chose, c'est une attente. Mais c'est juste toujours de regarder. C'est pas de se dire j'ai-tu une attente ou pas une attente. C'est comment j'ai réagi avec mon attente. Quelle est ma façon de procéder avec cette attente là. C'est surtout ça qui est important à regarder. Là, c'est à toi de regarder si tu serais déçu. Si ça dit oui, c'est que tu es trop attaché au résultat. Alors, c'est ça qu'une personne qui veut absolument avoir tel résultat, puis elle l'a pas, c'est sûr qu'elle est déçue. Puis ça, c'est une attente non justifiée.
Faut-il toujours qu'il y ait des ententes ou encore même signer des contrats pour que le monde ou les personnes soient généreuses dans leurs échanges? Pourquoi? Est-ce qu'elles se perdraient avec le temps? Qu'est devenue la complicité?
Non, je crois pas que c'est nécessaire de toujours faire des contrats puis d'avoir des engagements précis pour que les gens donnent ou que les gens fassent quelque chose. C'est juste que quand on s'attend à quelque chose, c'est là d'aller vérifier est-ce qu'il y a eu une entente. T'sais. C'est tout à fait différent. Hein, ça dit pas qu'il faut absolument s'entendre. Ça dit juste que ça serait bon de vérifier s'il y a une entente si tu vis des émotions. Alors, c'est juste de se dire, ben, mon Dieu, moi, je sais que moi, je suis capable de faire ou de donner à quelqu'un sans m'être engagé, tu sais. Mais c'est important aussi de savoir, c'est pas parce que ça arrive une fois qu'une personne est généreuse de son temps ou qu'elle donne quelque chose, que c'est obligé de se répéter. Parce que c'est ce qui arrive bien souvent, hein. Parce que c'est arrivé une fois, là, on prend pour acquis que ça va arriver encore, soit face à soi-même ou face aux autres, ou les autres face à nous autres. Ils disent, ben moi, mais c'est ça que tu as fait la dernière fois, je pensais que tu le ferais encore. Tu sais, là, c'est pour ça que si t'arrives, toi, tu décides d'être généreuse, puis tu fais 2 heures de travail de supplémentaire avec quelqu'un ou tu donnes de ton temps pour aider quelqu'un, ça peut arriver la première fois, ça s'est fait sans qu'il y ait eu une entente au préalable. Mais il y a le danger avec ça, à cause de notre fameux mental qui est aussi fort chez nous, là, que là, la personne à qui tu as donné pourrait peut-être s'attendre à ce que ça se fasse encore une fois. Et c'est là qu'on est obligé de faire notre travail intérieur.
Pourquoi pensez-vous que la plupart des personnes aujourd'hui ne pensent plus à répondre aux attentes des autres? N'y a-t-il plus de générosité dans ce monde?
Ben, c'est que là, on mélange 2 choses différentes. Hein? C'est être généreux, ça fait partie de donner sans attendre. Ça, c'est une chose, là, mais je dirais plus qu'il n'y a plus de gens généreux. T'sais? C'est on a de la difficulté à répondre aux attentes des autres. Parce que bien souvent, on sent que ça nous est imposé. Tu sais, admettons qu'une personne, bon, on va prendre l'exemple de notre madame, là, de 84 ans dans un foyer d'accueil. Ses filles le savent, là, elle leur a fait savoir juste par, ça peut être par des visages qu'elle fait, des émotions qu'elle vit ou des petites affaires. Tu sais, il n'y a pas eu d'entente claire entre eux autres, mais elle a réussi à lui faire savoir qu'elle était heureuse juste quand il y allait. Puis s'il était des bonnes filles, il irait la voir. T'sais. Alors, pourquoi qu'eux autres n'ont pas le goût de le faire? Justement parce qu'ils se sentent imposés, ils se sentent profiter d'eux. On sent qu'ils sentent qu'on profite d'elles. Puis alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle les gens ont de la difficulté à répondre aux attentes des autres parce qu'ils disent... Puis moi, là-dedans, tu sais, je me suis jamais engagée. Alors, pourquoi il faudrait que je réponde aux attentes des autres? Mais ça ne vous empêche pas, tout à coup, de dire, ben par contre, moi, quand je veux le faire, je le fais parce que je veux le faire. Fait que ces deux dames-là qui ont une vieille maman, là, dans un foyer d'accueil, ça serait important qu'ils se disent, bon, ben là, moi, disons que dans le moment, ça ferait mon affaire d'y aller 1 fois par 2 semaines. Ben je vais faire un petit bout de chemin. Je vais y aller 1 fois par semaine. Tu sais, je vais aller un peu plus que qu'est-ce que moi, là, ça me dirait de le faire. Ça va être un peu moins que qu'est-ce que ma mère s'attend. Mais moi, j'en fais un bout, puis elle va en faire un bout, là. On sait pas comment l'autre va le prendre, par exemple. Mais au moins, ça soit clair. Puis si vous le faites, vous le faites parce que vous voulez le faire. Parce que si vous dites que vous êtes généreux, puis vous vous imposez quelque chose, puis ça fait pas votre affaire en dedans, c'est pas de la générosité. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à pas avoir d'attente si vous le faites malgré vous autres, puis vous vous forcez, vous dites, OK, d'abord, tu sais, quand on a cette attitude-là, c'est pas bon. Il faut que ce soit choisi, il faut que ce soit fait avec plaisir, tu sais. Et moi, je suis sûre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de générosité qui se passe. Puis quand c'est vraiment dans le domaine de la générosité, on n'en vit pas d'émotions, puis on ne vit pas de problèmes comme ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'en est pas aussi conscient. On est beaucoup plus conscient des paquets d'émotions suite aux attentes, par contre.
Qu'est-ce qu'on fait si on sait qu'une personne ne respectera pas dans l'avenir l'engagement pris ensemble?
Comment quelqu'un peut savoir ça? Ça s'appelle décider pour quelqu'un d'autre. Est-ce que l'autre te dit qu'elle ne garderait pas son engagement? Là, ça arrive souvent qu'on fait ça, hein? On se base sur des expériences du passé, puis on dit, ils ont jamais gardé leur parole. Alors ça me fait un peu penser à l'exemple de mon fils avec ma voiture. Moi, tu sais, je me base sur l'expérience du passé, puis je vois qu'à chaque fois, il me la remettait dans une condition qui faisait pas mon affaire. Alors là, je me dis, comment je peux y faire confiance à l'avenir? Hein? C'est un peu ça que j'ai fait. Alors, je décide que je lui repasse plus parce que là, j'ai pris pour acquis qu'il y a des fortes chances que ça se produise encore. Mais par contre, je peux jamais être sûre. Puis quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, ça veut pas dire que c'est que moi, là, j'ai raison, là, puis que c'est ceux que si je la passais encore, ça reviendrait comme ça. Mais moi, là, c'est au-delà de mes limites de prendre la chance. J'ai même plus le goût de le faire, tu sais. Je le sais que je pourrais le faire, puis je sais que peut-être que je me trompe. Mais dans le moment, moi, j'exprime mes limites, puis j'ai pas le goût, c'est trop, puis j'ai pas le goût encore de me mettre dans une situation que je vais encore vivre des émotions, parce que je sais comment je suis. Fait, je me dis, si là, j'arrive, puis je lui fais encore confiance, je sais que je vais avoir des attentes, puis je vais vivre des émotions si ça arrive. Alors, c'est pour ça que ça fait partie d'exprimer nos limites. Si j'étais capable d'être sûr que c'est pas grave, je peux prêter mon auto, faire ce qu'il veut avec, puis ils vont me remettre, puis que je serais sûr que ça me ferait rien vivre, là, ce serait facile pour moi d'arriver, puis de continuer à y prêter. Mais c'est ça, quand j'ai parlé de « donnez-vous le droit, tu sais, d'avoir des limites ». Fait que si vous êtes dans une situation, quelqu'un s'est engagé avec vous autres, puis en dedans, ça vous dit que en vous basant sur ces expériences du passé, vous pensez qu'il y a 99% de chances que l'autre garde pas son engagement, ben c'est bien, bien important que vous en parliez avec la personne, plutôt que de, faut pas accuser l'autre. Faut pas dire, ben ça y est, tu n'es pas capable de garder ta parole, je le sais d'avance, tu me promets ça, puis je sais que tu le feras pas. Ça, c'est pas la bonne façon, parce que ça va causer un malaise entre les deux. Plutôt dire, en me basant sur ce que je sais, j'ai peur que tu gardes pas encore ton engagement. Puis là, moi, là, je suis pas capable de le prendre cette fois-là. Fait que exprimez ce que vous avez à faire, vos limites à cette personne-là.
Alors, c'est une question en trois volets sur une femme et son conjoint. Premièrement, quoi dire à son conjoint lorsqu'on veut le quitter sans qu'il se sente rejeté? Est-ce qu'on sent vraiment lorsqu'on aime quelqu'un, son conjoint, ou est-ce notre raison qui doit faire le décompte des faits? Et troisièmement, se connaître, deux points. Apprend-on à mieux se connaître en vivant seul ou en couple? Savoir recevoir de la tendresse sans en donner en retour, est-ce correct? Alors, première partie?
On va en faire une à la fois, là.
Ouais. Alors, quoi dire à son conjoint lorsqu'on veut le quitter sans qu'il se sente rejeté?
Alors, il n'y a pas une personne qui peut contrôler comment l'autre va se ressentir. On n'a pas ce pouvoir-là. C'est ça, c'est de se donner un pouvoir qu'on n'a pas. Alors, la seule façon de le faire, c'est de le faire dans l'amour. Et en expliquant à la personne, moi, je veux te laisser, ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi avec moi-même. Il y a des affaires qui se passent dans notre couple, puis moi, je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Tu sais, on a le droit d'avoir des limites. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans une semaine. Peut-être 1000 fois. Parce que c'est incroyable parce qu'on a de la difficulté à se donner le droit des choses. C'est ça, accepter. C'est constater que c'est là, c'est peut-être pas notre préférence. Je suis sûre que la personne qui veut quitter son mari, elle préférait beaucoup plus que ça aille bien, puis que ce soit le grand amour entre les deux, puis que ce soit la belle harmonie. Mais tout à coup, quand à un moment donné, on n'est plus capable, on ne doit pas accuser l'autre. Si tu accuses l'autre, c'est assez de ta faute, c'est à cause de ci, puis de ça que je veux te laisser, là, ça, vous allez vous laisser dans une mauvaise attitude. C'est sûr, j'avais bien plus de chances qu'il se sente mal, et puis vous serez pas bien ensemble. Tandis que tu dis, dans le moment que je sais qu'il y a des affaires que j'aurais à apprendre avec toi, mais je ne peux pas le faire maintenant. Puis je réalise que quelqu'un avec un comportement comme le tien, moi j'ai de la misère à vivre avec ça, puis je sais fort bien que si je me rencontre un autre homme qui a un comportement comme le tien, ou j'ai un enfant, ou un patron, ou quelqu'un qui va avoir ça, je sais que je vais encore vivre des choses difficiles. J'ai pas réglé ça. Tu sais, prenez votre responsabilité là-dedans, que c'est jamais la faute de l'autre si ça va pas dans votre couple. C'est une série de circonstances, puis ça vous donne une occasion de d'ouvrir votre cœur, puis de dire dans le moment, je pense que ça serait mieux qu'on se laisse. Ça veut pas dire que c'est pour toujours, ça non plus. Qui dit que vous allez vous laisser, puis qu'après ça, vous ne deviendrez pas des super bons amis, puis que vous allez reprendre ensemble? Ça arrive souvent, ça aussi. S'exprimer ses limites, mais tu dois, toi, parler avec ton cœur, puis pas accuser l'autre. Ça, c'est le meilleur moyen que tu as pour aider l'autre personne. Mais par contre, on peut jamais savoir comment l'autre va le vivre. On peut pas savoir d'avant. L'autre même ne sait pas encore comment elle va le vivre. T'sais.
Est-ce qu'on sent vraiment lorsqu'on aime quelqu'un, le conjoint, ou est-ce notre raison qui doit faire le décompte des faits?
Non, si on se fie à notre raison pour savoir si on aime ou non, là, ça va être compliqué, ça. Parce que quand on utilise le raisonnement ou le mental ou l'intellect, c'est-à-dire qu'on se base sur des choses qu'on a apprises dans le passé. L'amour, ça se sent, hein, ça se sait. On le sait en dedans de nous autres. Et comment on sait si on aime véritablement quelqu'un? C'est quand on est capable de s'aimer véritablement. Tu sais, on peut pas... Si admettons, j'ai un paquet de parties de moi que j'aime pas, ben c'est sûr que je vais m'attirer quelqu'un qui va avoir des parties comme ça, qui va venir me chercher dans les parties de moi que j'aime pas. Fait que c'est quand on regarde quelqu'un, c'est à travers quelqu'un-là qu'on se voit. Fait que c'est sûr qu'il va venir me chercher parce qu'il vient faire ressortir des parties de moi que j'aime pas. Fait que là, je vais dire à lui, j'aime pas telle affaire, j'aime pas telle affaire, mais en réalité, je suis en train de dire, j'aime pas cette partie-là de moi que je vois en toi. Et ça, c'est ce que j'explique beaucoup. Ça, c'est beaucoup expliqué dans le petit livre de relations intimes, là. Comment utiliser votre conjoint pour vous regarder à travers lui. Et fait que c'est pour ça que c'est bien utile d'arriver puis de dire « j'aime quelqu'un à 100%, sans attente et d'un amour inconditionnel » parce que c'est pas fait encore avec soi-même. Fait que on utilise les gens pour découvrir qu'est-ce qui est fait en dedans de nous autres.
Se connaître. Apprend-on à mieux se connaître en vivant seul ou en couple?
Non, en vivant seul, c'est plus difficile d'apprendre à se connaître. C'est bien sûr, parce que plus il y a du monde dans la maison avec vous autres, plus vous avez des miroirs pour vous regarder. Hein? Alors, dans la vie, on est ici pour apprendre à s'aimer, pas aimer les autres. On est ici pour apprendre à s'aimer. On utilise les autres. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre en société. Parce que les gens disent, là, il faut que j'aime. Non. Si tu veux avoir une relation bien spéciale, c'est la meilleure façon de se dire, moi, là, je décide que je vais vivre avec cette personne-là, puis je vais utiliser cette personne-là. Utiliser, ça ne veut pas dire profiter, là. Ça veut dire qu'elle va m'être utile pour apprendre à me connaître et à découvrir les parties de moi que j'aime pas encore, puis j'ai pas appris à accepter encore. Et alors, à ce moment-là, tu peux pas faire autrement qu'être bien avec la personne parce que tu vas lui être reconnaissant d'être là pour t'aider, toi, à te connaître. Alors, c'est sûr que plus il y a de gens dans une maison, puis plus vous utilisez les gens autour de vous autres pour vous connaître, mieux que c'est. Par contre, ça peut arriver qu'à un moment donné, on n'est plus capable. On n'est plus capable. On regarde des gens autour de soi puis on dit, là, j'en ai jusque là. Tu sais, je ne veux plus me regarder à travers les autres. On appelle ça faire une écœur en titre, là. Et puis, ça peut arriver, ça aussi. Tu sais, on dit, là, je le sais que j'aurais peut-être quelque chose à apprendre si je me regarde à travers lui. Mais là, je veux pas le faire. C'est trop, là, je suis plus capable. Je veux juste avoir la paix. Ça peut arriver si vous avez passé une phase dans votre vie où vous voulez vraiment être tout seul. Mais croyez pas que vous avez réglé vos problèmes en vous en allant tout seul. Vous êtes juste éloigné pour le moment, pour reprendre votre souffle, pour développer un peu plus de sagesse, pour peut-être replacer des choses, mais il y a pas de développement qui va se faire plus, là. Le développement se fait vraiment dans l'action. C'est peut-être juste un peu comme s'arrêter puis reprendre un peu son souffle. Alors, si c'est ça que vous avez besoin, ben c'est ça que vous avez besoin. Puis, de toute façon, là, il n'y a pas personne qui a des comptes à rendre à personne. Si vous autres, vous décidez, moi, c'est ce que je veux dans ma vie. Si c'est pas la bonne décision pour toi, si d'avoir pris cette décision-là, tu fais un détour dans ton plan de vie, c'est pas des affaires de personne. Hein? C'est comme si il y a une personne ici qui s'en va en Floride, si elle décide de faire un détour en s'en allant, puis après une journée de plus pour se rendre, c'est pas des affaires de personne. Ça la concerne, c'est juste celle qui va arriver plus tard. C'est la même chose dans notre vie. On n'a pas de compte à rendre à personne au plan spirituel, c'est avec soi-même. Les gens autour de soi sont là pour nous aider à nous connaître, c'est tout. On n'est pas là pour régler la vie des autres, puis les autres sont pas là pour régler la nôtre. On est là pour soi-même et ça arrive des fois qu'on prend des décisions, on ne sait pas si elle est bonne ou non. C'est pas grave. Dites-vous, de toute façon, c'est moi qui vais récolter, c'est ma vie, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, j'ai le droit de prendre le temps que ça va prendre pour me rendre où je veux aller. Il n'y a personne au monde qui a le droit de diriger votre plan de vie.
Savoir recevoir de la tendresse sans en donner en retour, est-ce correct?
Si tu te sens bien là-dedans, tu sais, quelqu'un te fait une marque de tendresse, puis toi, tu fais juste l'accueillir, puis tu te sens pas obligé d'en donner en retour. Ça fait partie d'apprendre à recevoir, tandis que si quelqu'un te fait une marque de tendresse, puis toi, tu dis, bon, faut que j'en fasse une en retour, ben ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que t'es une genre de personne, que t'es une personne qui donne avec attente. Si tu crois que parce que l'autre te donne quelque chose, t'es obligé de le faire en retour. Puis c'est pas facile, ça, hein, de recevoir des affaires, là, puis de juste recevoir, sans se sentir coupable, sans se sentir sans cœur, sans se sentir égoïste. Hein, on a l'impression là que si on fait pas quelque chose en retour, là, on n'est pas correct. Puis ça, c'est un aspect qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que ça a pas fait partie de notre éducation. Hein. Il y en a-tu qui ont eu des parents qui leur ont enseigné ça à recevoir, là, juste recevoir, juste dire merci. Hein, on ne l'a pas appris, ça jamais fait partie de l'éducation, ni scolaire, ni familiale. C'est tout nouveau, ça, d'avoir à faire ça. Moi, je me souviens beaucoup plus, moi, d'avoir entendu ma mère dire, « Bon, ben là, c'est à mon tour à recevoir ma tante une telle, tu sais, elle nous a reçu l'autre fois, c'est notre, tu sais, c'était, bon, ben, il m'a écrit une lettre, faut que j'en écrive une en retour, tu sais, on apprenait beaucoup plus dans notre éducation que quand on recevait quelque chose, il fallait donner en retour. Fait que, faites-vous-en pas, puis soyez pas surpris si vous apercevez que vous avez de la difficulté à recevoir, sans vous sentir coupable, tu sais, mais graduellement, on finit par apprendre à le faire.
Alors, c'était le sujet de ce soir. Quoi faire avec nos attentes? Alors, merci beaucoup, Lise Bourbeau. On vous remercie de votre présence et on vous dit à une prochaine. Bonsoir.
Si vous êtes intéressé d'en savoir plus au sujet de nos produits et ateliers, communiquez avec nous au Québec au 514-875-1930. Ou pour l'Amérique du Nord, utilisez notre ligne sans frais au 1-800-361-3834. Il nous fera plaisir de vous offrir notre brochure d'activité gratuitement. Vous trouverez aussi une multitude d'informations sur notre site web au www.écoutetoncorps.com.